l'invité de la matinale.
Sur la première.
Bonjour Léa Havard.
Bonjour.
Maître de conférence en droit public à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Le 12 décembre, le référendum va se tenir, c'est ce qui a été décidé par l'État. Un référendum sans une partie des trois partenaires historiques. On l'a dit et redit juridiquement, selon la lettre de l'accord de Nouméa et la lettre de la loi française, le référendum sera quand même valide. Mais quand on parle de l'esprit de l'accord de Nouméa, comment est-ce qu'un référendum pareil peut être en accord avec l'esprit de l'accord de Nouméa ?
Alors, vous l'avez dit, je pense que sur cette question, et comme sur beaucoup de questions d'ailleurs qui se posent par rapport au statut de la Calédonie, il y a toujours cette disjonction entre l'aspect purement juridique et l'aspect purement politique. Vous l'avez répété, d'un point de vue purement juridique, le troisième référendum, donc qui va se tenir le 12 décembre prochain, sera considéré comme valide, en tout cas le fait d'avoir une non-participation importante de la population ne va pas conduire à une invalidation du scrutin, dans la mesure où il n'y a pas de quorum, il n'y a pas de nombre minimum de personnes qui est exigé pour la validité des résultats. Ça, c'est le point de vue purement juridique. Après, effectivement, d'un point de vue politique, là, ça pose bien d'autres questions, puisque, bien sûr, l'esprit de l'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation, de réconciliation aussi entre plusieurs communautés. Et bien sûr, le fait que le peuple qui est le plus concerné par cet accord de décolonisation ne participe pas au scrutin, bien sûr, ça posera des questions qui sont des questions en termes de légitimité, c'est-à-dire quel sera le degré d'acceptation du résultat par la population dans la mesure où une grande partie d'entre elles n'aura pas participé à ce scrutin.
Et ça, c'est un argument qui pourrait être recevable devant des juridictions électorales, devant le Conseil d'État, par exemple ?
Devant les juridictions françaises, non, c'est un argument qui ne pourrait pas être recevable, puisque dans ce cas-là, encore une fois, si on se place d'un point de vue strictement juridique, la loi française n'impose pas de nombre minimum de personnes pour participer. Donc là, c'est vraiment une question d'opportunité politique, c'est plus une question juridique.
Pour ce qui est, ça c'est le droit français, mais les indépendantistes, le FLNKS, a également évoqué la possibilité de saisir l'ONU. Quelle pourrait être l'action du droit international et l'influence du droit international sur la validité du scrutin en droit français ?
Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'ONU, effectivement, joue un rôle, en tout cas, dans le processus de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est particulièrement le C24, le comité de décolonisation de l'ONU, qui est une instance spécifique de l'ONU. Et donc, ce comité de décolonisation, il est mobilisé, notamment, par exemple, vous parliez tout à l'heure, au moment du JT, de la surveillance du bon déroulement du scrutin. Donc, on a des représentants de l'ONU qui sont présents sur le territoire pour vérifier le bon déroulement du référendum. La présence de ces observateurs de l'ONU, déjà, est une garantie du bon déroulement du scrutin. C'est-à-dire que une partie la France, une partie des Français pourraient contester la validité du scrutin devant l'ONU. Mais si on regarde, alors il faudrait voir, puisque la situation ne s'est jamais présentée de cette façon, mais si on regarde avec des cas comparables, on est quand même dans une situation où les observateurs de l'ONU seront donc présents. Ils ont assisté au processus de révision des listes électorales. On a eu une information correcte de la population. Donc là, c'est vraiment un choix en fait des indépendantistes de ne pas aller voter. Donc il n'y a pas forcément d'obstacle, en tout cas pour l'instant, qui apparaîtrait et qui permettrait de dire que les instances internationales invalideraient entre guillemets le résultat.
Mais imaginons que l'ONU décide, que le comité des 24 dise, pour nous, le scrutin n'était pas sincère, n'est pas valide. Est-ce que ça pourrait avoir une influence dans le droit français et est-ce que ça pourrait être obliger l'État français à refaire quelque chose ?
Non, en fait, c'était à ça que je voulais aboutir. Le comité de décolonisation de l'ONU pourra tout au plus produira un avis sur le déroulement du scrutin et pourra émettre des réserves, pourra considérer que le scrutin ne s'est pas déroulé dans des bonnes conditions, mais juridiquement, il n'a pas de moyen d'action pour contraindre la France à organiser, par exemple, un nouveau scrutin. Donc on est vraiment dans une pression qui est de l'ordre du politique, là encore, parce qu'évidemment, si on a quand même l'ONU qui qui cible la France au niveau international, bien sûr, c'est pas favorable pour l'image de la France d'un point de vue géopolitique, géostratégique. Donc c'est plus une influence morale, une influence politique. Il n'y a pas de moyens juridiques, de contraintes dans ce cadre.
Il est 7h08. Je vous encourage, chers amis auditeurs, à nous appeler au 258-258 pour poser vos questions ce matin au maître de conférence en droit public à l'université 258-258.
Léa Havard, le 12, il va donc y avoir ce troisième et dernier référendum selon l'accord de Nouméa. Que devient l'accord de Nouméa le 13 au matin ?
Alors, que devient l'accord de Nouméa le 13 au matin ? C'est une question qui a soulevé beaucoup de débats, notamment entre spécialistes, entre spécialistes juristes, parce que les textes sont assez flous sur la question. En tout cas, ils sont susceptibles d'interprétation. Je pense juste ce qu'il faut rappeler, c'est que sur ces questions-là, il y a vraiment les textes, le droit ne peut pas tout prévoir et parfois on est obligé d'interpréter le texte dans un certain sens. Là, on est un peu dans ce type de situation et je pense que c'est pour ça qu'il y a des crispations et des débats sur ce point, c'est que il est susceptible de plusieurs interprétations. Alors, quand même, je pense qu'il y a des lignes, une ligne de réponse qui se dégage, c'est que l'accord de Nouméa au 13 décembre ne va pas s'écrouler. Tout le système juridique de la Calédonie va rester en place, notamment parce que l'accord de Nouméa lui-même prévoit en fait que à la suite du troisième référendum, il restera. L'organisation politique restera en place jusqu'à ce qu'un nouveau statut, que ce soit d'indépendance ou un nouveau statut au sein de la France, reste en vigueur. Et l'État, surtout, a bien confirmé cet élément dans le document sur le oui et le non qui a été rendu il y a quelques mois. L'État a bien écrit noir sur blanc que la Constitution, la loi organique et la loi continueront de produire leurs effets juridiques après le référendum.
Donc là, il n'y a plus de flou au final.
Alors, là où il y a un flou, mais ça c'est plutôt un débat de spécialistes, c'est que l'accord de Nouméa en lui-même est censé arriver à son terme, mais en fait tout ce qu'il contient et toutes les dispositions annexes continuent à produire leurs effets. Donc c'est pour ça que je vous dis, là on est plus sur un débat technique de spécialistes, mais concrètement, il ne va rien se passer, il faut bien être clair là-dessus, il ne va rien se passer le 13 décembre. Toutes les structures institutionnelles, tout le cadre juridique de la Nouvelle-Calédonie va rester en place.
Allons donc au standard à accueillir un auditeur qui souhaite vous poser une question, mais restez anonyme. Bonjour.
Oui, bonjour. Une question, madame.
On vous écoute.
Pas pour ça, les députés qui posent dire repousser le référendum.
Pardon, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît ? On n'a pas bien compris.
Les députés de France ont pensé faire repousser le référendum.
Que pense la dame de l'opportunité de repousser le référendum ?
Des députés de France qui ont fait savoir qu'il fallait repousser.
Très bien, je vous remercie. Léa Havard, il y a eu plusieurs personnalités politiques en métropole qui ont appelé à repousser le référendum. Une question assez basique, est-ce que c'est encore possible ? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, alors qu'on est en plein dans la campagne officielle, l'État pourrait dire « bon, bah, finalement, non, il se fera l'année prochaine ».
Alors, je suis pas spécialiste de droit électoral, mais il me semble en tout cas que juridiquement, il n'y a pas de contraintes qui empêcheraient de le faire en théorie. Après, effectivement, ça paraît assez peu probable vu les délais dans lesquels on est. Mais en tout cas, je pense que c'est important de rappeler, puisque l'auditeur posait la question, enfin en tout cas a évoqué les députés, dans tous les cas, cette compétence, ce serait la compétence du gouvernement français. Donc la seule autorité qui serait compétente pour éventuellement décaler, prévoir une autre date du référendum, ce serait le gouvernement français.
Jean-Paul vient de nous rejoindre. Bonjour.
Oui, bonjour. Ma question, ça concernera un petit peu la fin de l'accord de Nouméa, tout en sachant que c'est un accord constitutionnalisé. Donc, c'est dans la Constitution. Quelles vont être les étapes pour arriver à son terme ? Parce que le terme de l'accord de Nouméa, c'est au moment où l'accord ne sera plus dans la Constitution. Voilà ma question. Merci.
Merci Jean-Paul. Léa Hamard, pour le coup, c'est très précis. Et quelles vont être les étapes d'ici à ce qu'il y ait un nouveau statut ?
Alors, c'est très précis. Cette fois-ci, j'ai une réponse qui est bien claire. Donc, effectivement, l'accord de Nouméa, il a une valeur constitutionnelle, c'est-à-dire que dans la Constitution, il y a une référence à l'accord de Nouméa. Donc, c'est ça qui le constitutionnalise, qui lui donne une valeur constitutionnelle. En droit, quand on a une disposition qui a été adoptée, donc là, en l'occurrence, le fait d'avoir inscrit l'accord de Nouméa dans la Constitution, ça a été fait suite à une révision constitutionnelle. Pour pouvoir défaire quelque chose qui a été fait, il faut utiliser la même procédure. Donc ça veut dire que pour supprimer et remplacer par ce qui sera l'accord de Nouméa, il faudra qu'il y ait une révision de la Constitution. Donc là, concrètement...
Quel que soit le résultat du référendum.
Quel que soit le résultat du référendum, il faudra une révision de la Constitution, soit pour supprimer le titre 13 qui concerne la Nouvelle-Calédonie, pardon, en cas de oui, soit pour modifier ce titre 13 qui concerne la Calédonie et prévoir d'autres dispositions que celles de l'accord de Nouméa.
Pierre est avec nous au standard. Bonjour.
Allô, bonjour.
Merci de poser votre question, s'il vous plaît.
Allô, bonjour. Je voudrais vous demander si le corps électoral va rester gelé ou s'il, au lendemain du 12, il est automatiquement dégelé.
Merci Pierre. Léa Var, c'est une question qui revient beaucoup. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Quel va être l'avenir du corps électoral ?
Alors, c'est là que je reviens sur une réponse qui est moins claire parce que les dispositions elles-mêmes ne le sont pas. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En réalité, l'État français a bien précisé donc que l'ensemble des dispositions juridiques allaient continuer à produire leurs effets. Donc, on ne va pas tomber, encore une fois, dans un vide juridique. Après, sur des dispositions spécifiques, la question de savoir, la question du corps électoral, c'est la question de savoir si le corps électoral fait partie des dispositions centrales en fait de cette organisation politique et est inclus dans les dispositions qui vont demeurer. Donc là, il y a une petite zone d'incertitude. Moi, j'aurais tendance à dire que là, ça va être l'ensemble du dispositif en fait qui va rester en vigueur. Mais là encore, je pense que ça va surtout, comme il y a plusieurs interprétations possibles, je pense qu'il va aussi y avoir une intervention politique justement pour préciser le sens des choses. Éventuellement, s'il y a une volonté de dégeler le corps électoral, procéder à des modifications de texte. Mais là, en l'état, je ne vois pas comment... Enfin, le corps électoral ne va pas être dégelé sans qu'il y ait d'action pour le faire.
Et par rapport... Parce que ça, ce serait un corps électoral qui s'appliquerait au provincial. Et du coup, est-ce qu'on pourrait avoir un corps électoral complètement différent pour le référendum de projet qui est prévu à la fin de la période de transition ?
Alors là aussi, très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse puisque personne n'a encore donné de réponse à cette question. Donc, mais effectivement, elle est très importante. Je rappelle que le référendum de projet, c'est donc celui qui aura lieu, finalement, ce sera un quatrième référendum qui aura lieu a priori d'ici juin 2023, d'après le calendrier qui a été donné par le gouvernement, et qui sera un scrutin au cours duquel les Calédoniens seront amenés à se prononcer en faveur d'un projet, cette fois-ci, que ce soit un projet dans la France ou d'indépendance. Mais qui sera appelé aux urnes à ce moment-là ? Pour l'instant, en tout cas, juridiquement, dans les textes, il n'y a aucun corps électoral qui a été défini. Donc ça reste encore à définir.
Cette période de transition, le gouvernement l'a pour l'instant mise au maximum à juin 2023. Ça paraît quand même assez court pour décider d'un nouveau statut, quel qu'il soit indépendant ou une indépendance association ou au sein de la France. Est-ce qu'il pourrait être repoussé ?
Alors là encore, on est sur des déclarations qui sont d'ordre politique. Donc, c'est-à-dire que si on regarde dans la loi organique de 99, dans l'accord de Nouméa, dans la Constitution, on n'a pas de calendrier qui a été fixé. D'un point de vue juridique. Donc on est sur des déclarations politiques qui permettent de fixer un cadre de travail, mais qui peuvent évoluer s'il y avait nécessité.
Et donc ça voudrait dire que si par exemple le référendum de projet n'est pas plébiscité par les Calédoniens, il pourrait y en avoir encore un autre, et ce ne serait pas forcément la fin de toute cette période institutionnelle.
disons qu'en soi, Tout est possible. On rentre vraiment, c'est pour ça aussi, je pense que c'est important de rappeler qu'on est dans une période, enfin, on va rentrer dans une période de flou, mais qui est nécessairement une période pleine d'incertitudes, parce qu'on est dans ces périodes qu'on appelle des périodes de transition constitutionnelle, où on va passer d'un État à un autre, et que dans ce temps-là, il y a forcément des moments de flottement où on n'a pas encore pu tout prévoir, où beaucoup de choses restent à construire. Donc, en théorie, beaucoup de choses sont possibles dans les prochains mois, voire dans les prochaines années.
Dans 10 jours maintenant, on va voter. Vous l'avez dit, il y a énormément de flou sur l'après. Comment les Calédoniens peuvent aller voter en étant quand même un peu rassurés, en se disant ça va aller quand même quoi qu'il arrive, alors que c'est hyper flou au niveau juridique?
Alors, ce qu'il faut, là où il faut rassurer, je pense, les gens, c'est que, comme je vous le disais, déjà, il ne va pas y avoir un cataclysme le 13 décembre. On va avoir, comme vous venez de le dire, au moins un an et demi de transition derrière. Donc, il va vraiment y avoir un vrai temps de réflexion après le référendum. Donc, voilà, il ne va pas y avoir de grands bouleversements. Les gens vont retrouver le même quotidien le 13 décembre que le 12. On peut l'espérer, en tout cas. Et donc, voilà, on a une période de stabilité qui est annoncée derrière et qui permet de rassurer un peu la phase de transition qui arrive.
Léa Havard, maître de conférence en droit public à l'université, merci d'avoir été notre invitée ce matin.
De rien.
C'était l'invité de la matinale sur La Première.